présente Soupçons et préjugés. Les enquêtes de Lady Rose, tome 2. De M.C. Beaton, traduit de l'anglais par Françoise du Sorbier, lu par Claire Tefnin. À Georges et Isabelle Agreste, à Paris, affectueusement. Il écrivait en abrégé. Sa fleur bien trop tôt s'est fanée, et une mort prématurée a fait de lui un abrégé. Épitaphe de William Lawrence, mort en 1661. Westminster Abbey. Chapitre 1. Quand un plat vous est présenté à la table d'amis, évitez de le regarder d'un œil critique et de le retourner avec cuillère et fourchette avant de le refuser. Guide des bonnes manières à l'usage des dames, par un membre de l'aristocratie. L'hiver est une saison très démocratique. À Londres, il exerçait la même emprise sur les taudis de l'East End et les élégantes places de Belgravia. Le froid omniprésent rendait les humeurs aussi cassantes que la glace, même chez le comte et la comtesse de Hatcher. Dans leur domicile londonien, on était à court de bois et de charbon. Le majordome rejetait la faute sur l'intendante sur le premier valet de pied, et tandis que la bataille des responsabilités faisait rage au sous-sol chez les domestiques, aux étages des maîtres se déchaînait une violente dispute sur un tout autre sujet. Lady Rose Summer, fille du comte et de la comtesse, insistait une fois de plus pour qu'on la laisse prendre un travail de sténodactylographe. Et pour couronner le tout, elle voulait aller s'installer dans un foyer pour travailleuses à Bloomsbury avec Daisy, sa femme de chambre. L'année précédente, le comte avait échappé à une visite du roi Édouard VII grâce aux bons et loyaux services d'un certain Harry Cascart. Celui-ci avait fait sauter une gare et un pont afin de convaincre le souverain qu'en visitant les Hatcher dans leur résidence à la campagne, il courait le risque d'être assassiné par les bolcheviks. Et à présent, Rose menaçait d'ébruiter la chose si ses parents s'opposaient à ses désirs. Drapée dans d'innombrables châles et une étole de fourrure dont les petits animaux pointaient sur Rose un regard accusateur, sa mère, la comtesse Polly, essayait pour la énième fois de faire entendre raison à sa fille. Pour un membre de notre famille, s'abaisser à travailler serait un déshonneur. Personne ne voudra plus t'épouser.
Je ne pense pas vouloir me marier, répliqua Rose.
Dans ce cas, tu aurais dû nous le dire l'an dernier et nous éviter de dépenser une fortune pour ton entrée dans le monde,
tonna le comte. Rose eut la bonne grâce de rougir. Lady Polly avança un argument plus diplomatique.
Nous allons à Nice. Cela te plaira beaucoup. Du soleil, des palmiers, un cadre très romantique.
Je veux travailler.
C'est la faute de cette femme de chambre que tu as engagée, cette ancienne gommeuse,
pesta le comte. Daisy Levin, la camériste de Rose, était en effet une ancienne artiste de cabaret. Elle était venue chez les Hatcher afin de jouer à la domestique atteinte de la typhoïde, un scénario mis au point par Harry Cascart pour empêcher la visite royale. Rose avait pris la jeune fille sous son aile, lui avait appris à lire et à écrire et l'avait engagée comme femme de chambre.
C'est mon idée, père. Nous en avons discuté à maintes reprises. Je ne reviendrai pas sur ma décision.
Elle sortit de la pièce et referma sans bruit la porte à double battant derrière elle. Un geste beaucoup plus efficace que si elle l'avait claqué.
Que faire ?
Se lamenta le comte, se pelotonnant encore un peu plus dans son manteau en peau d'ours, ce qui le faisait ressembler à un petit animal rond et blessé. Un silence morose s'installa. Les portes du salon s'ouvrirent et deux valets entrèrent, l'un portant un seau de charbon et du petit bois, l'autre un panier de bûches.
« Ce n'est pas trop tôt !»
s'exclama le comte.
« Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?»«
Il y a une telle pénurie de combustible en ville, monsieur, » dit le premier valet, « que nous avons dû envoyer deux fourgons en chercher à Stacy Court. »
Stacy Court était la résidence de campagne des Hatcher.
« Soit, allumez-moi ce feu !» grommela le comte.
Tandis que la flambée commençait à réchauffer la pièce glaciale, le comte sentit son cerveau se dégeler lui aussi.
« J'ai une idée !» lança-t-il. « Nous allons consulter ce fameux Cascart. Que fait-il ?